Audible Studio présente La secte maudite. L'assassin royal, tome 8. De Robin Hobb. Traduit par Arnaud Mounier-Lompré. Lu par Sylvain Agaès. Harout et ses fidèles rayés. Alexander et Crusades. Chapitre 1. Myrtheville. Depuis l'époque du prince Pi, l'élimination des vifiés était considérée comme une pratique aussi normale que la condamnation aux travaux forcés pour dette aggravée ou la flagellation pour vol. Le monde était ainsi, et nul ne le remettait en cause. Au cours des années qui suivirent la guerre des pirates rouges, il ne fut donc pas étonnant que les purges aillent bon train. La purification de serre avait débarrassé le pays des pirates et de leur création. Les forgisés, et les honnêtes gens aspiraient à éradiquer toute souillure des six duchés. Certains se montrèrent peut-être parfois trop prompts à punir sans guère de preuves. Pendant une certaine période, l'accusation, fondée ou non, d'avoir le vif suffit à faire trembler pour sa vie. Les fidèles du prince Pi, comme ils se baptisaient eux-mêmes, profitèrent de ce climat de suspicion et de violence. Sans jamais révéler leur propre identité, ils se mirent à dénoncer publiquement des personnages en vue, qui possédaient le vif, mais refusaient de prendre position contre la persécution des plus vulnérables d'entre eux. C'était la première fois que les vifiés, en tant que groupe, tentaient d'acquérir une influence politique. Cependant, il ne s'agissait pas du soulèvement d'un peuple contre l'injustice d'un oppresseur, mais de la manœuvre sournoise d'une faction perfide résolue à s'emparer du pouvoir par tous les moyens. Ses membres n'étaient pas plus loyaux les uns envers les autres que les chiens d'une même meute. Politique de la conjuration des fidèles du prince Pi, de Delvin. Notre course effrénée pour atteindre l'embarcadère à temps se révéla sans objet. Le bac était toujours à la mare et il y resterait. Comme l'apprit le capitaine, en attendant une cargaison de deux chariots de sel. Quand le seigneur Doré arriva en compagnie de Laurier, peu de temps après moi, je dois le reconnaître en toute sincérité, l'homme demeura inflexible. Mon maître lui offrit une bourse replète pour nous faire traverser sans les chariots, mais il secoua la tête en souriant. « Votre argent, je ne le toucherai qu'une fois, et si joliment qu'il tinte, je ne pourrai le dépenser qu'une seule fois. » Tandis que cette cargaison, c'est Dame Brésinga qui m'a prié de l'embarquer, et son argent tombe dans ma poche chaque semaine. Je ne veux rien faire qui risque de la mécontenter. Je vous demande donc pardon, noble seigneur, mais vous allez devoir patienter. » Ce contretemps ne réjouissait guère Sire Doré, mais il ne pouvait rien y changer. Il m'ordonna de surveiller les chevaux pendant que lui-même se rendait à l'auberge de l'embarcadère pour passer le temps confortablement assis devant une chope de bière. Il ne sortait pas de son personnage, et je n'avais donc à en concevoir aucun ressentiment, ainsi que je me le répétais à plusieurs reprises. Si Laurier ne nous avait pas accompagnés, nous aurions peut-être pu mettre bas les masques de temps en temps, sans compromettre nos rôles. J'avais espéré un voyage agréable, où nous ne serions pas obligés de maintenir constamment notre relation de maître et de domestique, mais c'était impossible, et je me résignai à la réalité. Pourtant, mes regrets durent transparaître dans mon expression, car Laurier me rejoignit alors que je promenais les chevaux dans un champ non loin de l'appontement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Je lui lançai un regard étonné, surpris par son ton compatissant, et je répondis la vérité. « Non, je pensais simplement à un vieil ami qui me manque. »«
Ah !»
Comme je me taisais, elle reprit. « Vous avez un bon maître ?» Il ne vous en veut pas que vous l'ayez battu à la course. J'en connais beaucoup qui se seraient arrangés pour vous le faire regretter. Cette réflexion me désarçonna, non en tant que Tom Blaireau, mais en tant que Fitz. Je n'avais pas imaginé une seconde que le fou pût prendre ombrage d'une victoire obtenue à la loyale. À l'évidence, je n'étais pas encore tout à fait dans la peau de mon personnage. Vous avez sans doute raison. Pourtant, il est autant vainqueur que moi, puisque c'est lui qui a choisi ma jument. De prime abord, elle ne me faisait pas très bonne impression, mais elle galope bien, et pendant la course, elle a fait montre d'un caractère que je ne soupçonnais pas. Maintenant, je pense arriver à en faire une bonne monture. Laurier s'écarta pour observer ma jument noire d'un œil critique. Elle m'a l'air de bonne qualité. Qu'est-ce qui vous gênait chez elle? Ma foi, je cherchais une réponse qui ne laissa pas soupçonner mon vif. Il me semblait qu'elle manquait de bonne volonté. Certains chevaux ont envie de faire plaisir à leurs cavaliers, comme votre casque blanc et Malta. Ma noire n'a pas cette nature, apparemment. Mais elle l'acquerra peut-être à mesure que nous apprendrons à nous connaître. Ma noire? C'est son nom? Je haussai les épaules en souriant. Si l'on veut. Je ne l'ai pas encore baptisée, mais en effet, c'est ainsi que je l'appelle, je crois. Laurier me jeta un regard en coin. C'est toujours mieux que Noiraude ou Fifi. Je perçus sa réprobation et lui adressai un sourire ironique. Je comprends ce que vous voulez dire. À la longue, je lui trouverai peut-être un nom qui lui conviendra mieux, mais pour l'instant, c'est ma noire. Nous marchâmes un moment en silence. Laurier ne cessait de jeter des coups d'œil aux routes qui menaient au bac. J'ai hâte que ces chariots arrivent. Je n'en vois pas signe. Ben, le pays est vallonné. Ils sont peut-être dissimulés par une colline proche, et nous allons les voir apparaître dans un instant. Je le souhaite. Il me tarde d'être en chemin. J'avais espéré arriver à Myrteville avant la nuit, car je voudrais visiter la région le plus vite possible. En quête de gibier pour la reine, fis-je. Oui. Elle détourna le regard, puis elle déclara tout à trac, comme pour me faire comprendre qu'elle ne trahissait aucun secret. La reine Kétriken m'a dit que je pouvais vous faire confiance, à Sire Doré et à vous, et que je ne devais rien vous cacher. J'inclinai sa tête. Sa Majesté m'honore. Pourquoi? Pourquoi? Répétai-je décontenancé. Eh bien, une telle confiance de la part d'une si grande dame envers quelqu'un comme moi, c'est invraisemblable. Surtout sachant que vous n'êtes au château de Castelserre que depuis quelques jours. Elle me regarda dans les yeux. Kétriken avait bien choisi sa confidente. Cependant, la vivacité d'esprit de Laurier pouvait aussi représenter un danger pour moi. Je me passais la langue sur les lèvres tout en me demandant que répondre. Je décidai finalement de lui livrer une parcelle de vérité. Il me serait plus facile de m'y tenir qu'à un mensonge lors de conversations ultérieures. Je connais la reine Kétriken depuis longtemps. J'ai effectué plusieurs missions discrètes à sa demande à l'époque de la guerre des pirates rouges. C'est donc pour elle que vous êtes venu à Castelserre, plutôt que pour Sire Doré? Il serait plus juste, je pense, de dire que je m'y suis rendu pour moi-même. Nous nous tûmes et conduisîmes nos chevaux à la berge pour les abreuver. Sans crainte de l'eau, ma noire s'avança dans le courant et but longuement. Je me demandais quelle serait sa réaction lorsqu'elle embarquerait sur le bac. Elle était grande et le fleuve large. Si elle se mettait en tête de faire des difficultés, la traversée risquait de me paraître longue. Je trempais mon mouchoir dans l'eau froide et m'essuyais le visage. Vous croyez que le prince a simplement fait une fugue? J'ôtai le mouchoir de devant mes yeux pour la dévisager, abasourdi. Cette femme n'y allait pas par quatre chemins. Je jetai des coups d'œil alentour pour m'assurer que nul ne pouvait nous entendre, tandis qu'elle ne me quittait pas du regard. « Je n'en sais rien, » répondis-je avec la même franchise. « Il est possible qu'il ait été enlevé par ruse plutôt que de force. C'est l'impression que j'ai. Mais j'ai la conviction qu'il n'est pas seul responsable de sa disparition. » Je mordis ma langue trop bien pendue. Comment étayer cette opinion? En révélant que j'avais le vif? Mieux valait écouter que parler. On risque donc de chercher à nous empêcher de le retrouver? C'est une éventualité. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on l'a enlevé par ruse? Oh, une idée comme ça. Ma réponse était trop évasive, je le savais. Laurier planta de rechef les yeux dans les miens. Eh bien, je partage votre opinion. En tout cas, il ne s'est pas enfui tout seul. Mon hypothèse est que ses ravisseurs n'approuvaient pas le projet de la reine de l'unir à la Narchesca outrilienne. Elle détourna le regard et ajouta. Moi non plus d'ailleurs. Ces derniers mots me firent dresser l'oreille. Pour la première fois, Laurier laissait entendre que sa fidélité à la reine n'était pas absolument inconditionnel. Toute la formation d'Imbre se réveilla en moi, me poussant à déterminer la profondeur de son désaccord. Était-elle impliquée dans la disparition du prince? Je ne suis pas sûr, moi non plus, que cette idée soit la meilleure, dis-je pour l'inciter à poursuivre sur le sujet. Le prince est trop jeune pour qu'on le marie, déclara Laurier sans détour. Je ne suis pas convaincu que les îles d'outre-mer représentent nos meilleurs alliés, et encore moins qu'elles respecteront leur engagement avec nous. D'ailleurs, comment serait-ce possible? Elles ne sont constituées que de cités-états éparpillées sur la côte d'une terre hostile. Elles n'obéissent pas à un chef unique et elles passent leur temps à se disputer. Si nous scellons une alliance avec elles, nous en tirerons peut-être des avantages commerciaux, mais nous risquons également de nous retrouver empêtrés dans une de leurs guerres intestines. Je restais quoi? Manifestement, Laurier s'était sérieusement penché sur la question, avec une profondeur de réflexion que je n'aurais pas attendue chez une chasseuse. Que préféreriez-vous dans ces conditions? Si la décision me revenait, et je sais très bien que ce n'est pas le cas, je garderais le prince à l'écart, en réserve, si j'ose dire, le temps d'avoir une vision claire de la situation, non seulement dans les îles d'outre-mer, mais aussi dans le sud, en Calcède, à Terrilleville, et dans les territoires plus éloignés encore. On dit qu'il se déroule une guerre là-bas, et on rapporte d'autres rumeurs plus échevelées. On aurait vu des dragons, par exemple. Je ne crois pas tout ce qu'on me raconte, mais des dragons sont bel et bien apparus dans les six duchés pendant la guerre des pirates rouges. J'en ai trop souvent entendu parler pour mettre leur existence sur le compte d'esprits particulièrement imaginatifs. C'est peut-être la guerre qui les attire, et les proies qu'ils y trouvent. Il m'aurait fallu des heures pour l'éclairer sur ce sujet. Aussi, me contentais-je de lui demander. Vous inclineriez donc à marier notre prince avec une demoiselle de la noblesse calcédienne, ou la fille d'un marchand de Terrilleville? Peut-être même vaudrait-il mieux qu'il épouse quelqu'un des six duchés. On murmure çà et là que Sa Majesté est d'origine étrangère et qu'une deuxième souveraine venue d'ailleurs ne serait pas dans l'intérêt du royaume. Et vous partagez ce point de vue? Elle me regarda dans les yeux. Avez-vous oublié que je suis la grand-veneuse de la reine? Mieux vaut une étrangère comme elle que certaines des aristocrates bogiennes que j'ai servies autrefois. Notre conversation s'interrompit là quelque temps. Nous fîmes sortir les chevaux du fleuve, jetai leurs morts, et nous les laissâmes paître. J'avais moi-même une petite faim. Comme si elle lisait dans mes pensées, Laurier tira deux pommes de ses fontes. « J'emporte toujours de quoi manger, » expliqua-t-elle en m'en tendant une. Certains des nobles pour qui j'ai chassé ne se soucient pas plus du confort de leurs piqueurs et de leurs pisteurs que de celui de leurs chevaux ou de leurs chiens. Je me retins de défendre le seigneur Doré contre cette accusation oblique. Que le fou décide lui-même de l'impression qu'il souhaitait donner. Je remerciai Laurier, puis mordis dans la pomme. Elle avait un goût aigrelet et sucré à la fois. Manoir leva soudain la tête. « Partagez ?» lui proposai-je. Elle agita dédaigneusement les oreilles et se remit à brouter.
Quelques jours loin de moi, et voilà qu'il fraye avec des chevaux. J'aurais dû m'en douter. »
Le loup s'était servi du vif sans subtilité. Je sursautai, et les montures jetèrent des regards effrayés en tous sens.
« Œil de nuit ? »
m'exclamai-je, surpris, en le cherchant des yeux. « Pardon ? » fit Laurier. « C'est mon chien. Il m'a suivi depuis chez moi. » Elle me dévisagea comme si j'avais perdu la raison.
« Votre chien ? Où ça ?»
Par chance pour moi, le grand loup sortit du sous-bois au même instant. Il haletait, et il se rendit tout droit au fleuve pour se désaltérer. Laurier l'observait fixement.
« Mais c'est un loup ?»«
Il ressemble beaucoup à un loup, c'est vrai, » dis-je. Je tapais dans mes mains et sifflais.
« Ici, œil de nuit, au pied, mon chien !»«
Je bois, imbécile, j'ai soif !» Comme toi, si tu avais fait le chemin sur tes deux jambes au petit trot au lieu de te laisser transporter par un cheval.
Non,
répondit Laurier d'un ton égal. Ce n'est pas un chien qui ressemble à un loup, c'est un loup. Je l'ai adopté quand il était tout petit. Œil de Nuit continuait à laper. C'est un excellent compagnon. Dame Brézinga risque de ne pas apprécier la présence d'un loup chez elle. Œil de Nuit releva le museau, balaya les alentours du regard, puis, sans un coup d'œil pour moi, retourna sous les arbres et disparut.
« Ce soir, »
me lança-t-il. « Ce soir, je serai de l'autre côté du fleuve.
Moi aussi, fais-moi confiance. Ce soir. »
Manoir avait senti l'odeur d'œil de nuit et surveillait les taillis où il s'était enfoncé. Elle poussa un hennissement inquiet. Je me tournai vers Laurier et m'aperçus qu'elle m'observait d'un air intrigué. « J'ai dû me tromper, » fis-je. « C'était un loup, en effet. Mais on aurait vraiment dit mon chien. »«
Tu m'as fait passer pour un idiot, » transmis-je à œil de nuit. « Ça n'était pas difficile. »
« Drôle de comportement pour un loup, » déclara Laurier. Elle ne quittait pas des yeux le sous-bois où il avait disparu. « Il y a des années que je n'ai pas vu de ces bêtes dans la région. » J'offris le trognon de ma pomme à Manoir. Elle l'accepta et, en retour, me laissa la paume maculée de bave verdâtre. Je jugeais plus judicieux de ne pas répondre à la remarque de Laurier.
« Blaireau, grand veneuse !»
C'était le seigneur Doré qui nous appelait du bord de la route, et c'est avec soulagement que je menais les chevaux dans sa direction. Laurier me suivit. Comme nous approchions de mon maître, elle émit un petit bruit appréciateur, et je lui jetai un regard étonné par-dessus mon épaule. Elle observait le seigneur Doré, mais, devant mon air interrogateur, elle me fit un petit sourire. Je reportai mon attention sur le fou. Conscient de notre examen, il prit une pause étudiée mais qui paraissait due au hasard. Je le connaissais trop bien pour me laisser prendre à ses artifices. Il savait pertinemment que la brise venue du fleuve faisait gracieusement danser ses boucles d'or. Il avait choisi avec soin les tons bleus et blancs de son habit dont la coupe élégante mettait sa sveltesse en valeur. On eût dit une créature de soleil et de ciel. Même les bras encombrés d'un cruchon et d'une serviette blanche bourrée de victuailles, il restait d'une distinction achevée.
« Je vous apporte à manger et à boire afin que vous ne soyez pas tenté de laisser les chevaux sans surveillance, »
me dit-il en me tendant le paquet et le cruchon emperlé de condensation. Il regarda ensuite Laurier de la tête aux pieds et lui adressa un sourire approbateur. « S'il plaît à la grand-veneuse, je serai heureux de partager mon repas avec elle en attendant ces maudits chariots. » Laurier me lança un coup d'œil dont le sens était évident. Elle me demandait pardon de m'abandonner. Mais je devais comprendre qu'elle ne pouvait laisser passer une occasion aussi exceptionnelle. « J'en serai ravi, sire Doré, » répondit-elle en inclinant la tête. Je pris les rênes de casque blanc de ses mains avant qu'elle ait le temps de songer à me les remettre. Le seigneur Doré lui offrit son bras comme à une grande dame et, après une hésitation imperceptible, elle posa ses doigts hâlés sur la manche bleu pâle. Le fou les recouvrit aussitôt d'une longue main élégante. Ils n'avaient pas fait trois pas qu'ils étaient déjà plongés dans une conversation sur les oiseaux, les saisons et les plumes. Je me rendis compte que j'étais resté la bouche entrouverte, et je la refermais, tandis que le monde qui m'entourait trouvait soudain un nouvel agencement. Le personnage du seigneur Doré était en tout point aussi réel et achevé que celui du fou que j'avais connu autrefois. Le fou était un petit phénomène de foire au teint livide, à la langue moqueuse et acérée, qui suscitait chez ceux qui le côtoyaient une affection inconditionnelle, ou bien une répulsion et une peur immodérée. Je faisais partie de ceux qui s'étaient liés d'amitié avec le bouffon du roi subtil, et je jugeais notre relation comme la plus sincère que deux adolescents pouvaient partager. Ceux qui redoutaient ses plaisanteries cinglantes et à qui répugnait son teint blafard et ses yeux délavés représentaient la grande majorité des habitants du château. Et voici qu'aujourd'hui, une jeune femme intelligente, et je dois bien l'avouer, séduisante, préférait la compagnie du seigneur Doré à la mienne.
« Les goûts, ça ne se discute pas, » dis-je à Casque Blanc qui, l'air chagriné, regardait sa maîtresse s'en aller.
« Qu'y a-t-il dans la serviette ?»«
Je me doutais bien que tu n'étais pas loin. » Une minute. Je bricolai une attache, mis les chevaux à paître, puis me rendis à la lisière de la prairie, là où commençait le bois envahi de ronces. Je trouvai une grosse pierre moussue sur laquelle j'étendis le carré de tissu. Après quoi, je débouchai le cruchon et constatai qu'il contenait du cidre doux. La serviette, elle, renfermait deux friands à la viande.
pour moi. »
Œil de Nuit était sorti à demi du roncier. Je lui jetai un des friands et mordis dans l'autre. Il était encore tiède, rempli de viande et de sauce brune et savoureuse. C'est un des grands avantages du vif. On peut soutenir une conversation tout en mangeant, et cela sans s'étrangler.
« Alors, comment m'as-tu retrouvé, et pourquoi ? » demandai-je. « Je t'ai retrouvé, comme on sait, où on a été piqué par un moustique. Pourquoi ? Que voulais-tu que je fasse ? Tu n'espérais tout de même pas que je resterais à Bourg de Castelserre, avec un chat. Soyons sérieux. Tu empestes l'odeur de cette créature. C'est déjà bien assez désagréable comme ça. Je n'aurais pas supporté de partager le même territoire qu'elle. »
Heur va s'inquiéter quand il s'apercevra de ton absence.
Peut-être, mais ça m'étonnerait. Il était dans tous ses états à l'idée de retourner à Bourg de Castelserre. Je ne vois d'ailleurs pas ce que cette perspective a de si exaltant. C'est bruyant et poussiéreux. On n'y trouve pas de gibier digne de ce nom et on ne peut pas faire un pas sans se cogner contre un humain.
Tu as donc suivi ma piste uniquement pour t'éviter ces désagréments?
Tu es sûr que tu ne t'en faisais pas pour moi, ou que je ne te manquais pas. Si le sans-odeur est toi chassé, je dois vous accompagner. C'est du simple bon sens. Heur est un brave garçon, mais il y a meilleur chasseur que lui. Mieux vaut qu'il reste à l'abri en ville.
Mais nous voyageons à cheval, et tu n'es plus aussi leste qu'autrefois, mon ami. Tu n'as plus l'endurance d'un jeune loup. Je préférerais que tu retournes à Castelserre et que tu gardes le petit.
Autant faire tout de suite un trou dans la terre et m'y ensevelir.
« Quoi ? » m'exclamai-je, saisi par l'amertume de son ton. J'avalai ma gorgée de cidre de travers et me mis à tousser.
« Petit frère, ne me traite pas comme si j'étais déjà mort ou agonisant. Si c'est ainsi que tu me vois, j'aime mieux être mort pour de bon. Tu voles le maintenant de ma vie quand tu crains que je disparaisse demain. » Ta peur a des griffes glacées qui m'en serrent et me dépouillent du plaisir que je tire de la chaleur du jour.
Et pour la première fois depuis bien longtemps, le loup abaissa toutes ses barrières, et je vis, tout à coup, ce que je me dissimulais. La réserve qui existait entre nous depuis quelque temps n'était pas du seul fait d'œil de nuit. Pour moitié, elle provenait de la distance que j'avais établie entre nous par peur de sa mort et de la souffrance insupportable que j'étais sûr de ressentir. C'était moi qui le tenais à l'écart. C'était moi qui lui interdisais l'accès à mes pensées. Pourtant, cette muraille avait laissé filtrer assez de mes émotions pour lui faire mal. J'étais sur le point de l'abandonner, et mon lent éloignement par rapport à lui correspondait à ma résignation de plus en plus ancrée à l'idée de sa mortalité. En vérité, depuis le jour où je l'avais ramené d'entre les morts, je ne le considérais plus comme complètement vivant. Je restais un moment hébété, avec le sentiment d'être à moins que rien, sans la moindre dignité. Lui exprimer ma honte était inutile. Le vif forme un lien qui permet de se passer de longues explications. Je préférais lui présenter tout haut mes excuses. C'est vrai, Heur est assez grand pour se débrouiller seul. Désormais, nous ne nous quitterons plus, toi et moi, quoi qu'il arrive. Je sentis son accord.
Alors, dis-moi, que chassons-nous ?
Un jeune garçon et un marguet, le prince de Voir.
Ah, le garçon et le chat de ton rêve. Eh bien, au moins, nous les reconnaîtrons quand nous les retrouverons.
Je restai un peu déconcerté de le voir si facilement effectuer un rapprochement et accepter un fait devant lequel j'avais moi-même regimbé. À plus d'une reprise, nous avions partagé les pensées du couple que nous recherchions, et cela me mettait mal à l'aise. Je m'efforçais de refouler ce sentiment. Mais comment vas-tu traverser le fleuve? Et comment vas-tu soutenir l'allure des chevaux?
Ne t'en fais pas pour ça, petit frère, et quand tu me verras, ne trahis pas ma présence en prenant l'air ahuri.
Je sentis son amusement à me laisser à mes interrogations, et je n'insistai pas. Je terminai mon repas, puis m'adossai au bloc de pierre qui m'avait servi de table et qui avait tiédi au soleil. Je manquais de sommeil et mes paupières s'alourdirent peu à peu.
« Vas-y, dors un peu. Je m'occupe de surveiller les chevaux.
Merci. Quel plaisir de fermer les yeux et d'accueillir le sommeil sans avoir à m'inquiéter. Mon loup veillait sur moi. Tout était redevenu comme avant. Il n'y avait plus d'obstacle au lien profond qui nous unissait, et cela m'apaisait davantage qu'un bon repas sous un ciel immaculé.
Ils arrivent.
J'ouvris les yeux. Les chevaux paissaient toujours tranquillement, mais leurs ombres s'étaient allongées sur l'herbe. Laurier et le seigneur doré se tenaient à la lisière de la prairie. D'un geste du bras, je leur signalai que je les avais vus, puis je me levai à contre-cœur. Ma sieste m'avait laissé une contracture dans le dos, et pourtant, je me serais volontiers endormi. Plus tard, me dis-je. J'apercevais les chariots qui s'approchaient de l'embarcadère. Casque Blanc et Malta répondirent quand je les appelais d'un petit coup de sifflet. Manoir, au contraire, s'éloigna autant que lui permettait sa longe, et je dus l'attirer vers moi. Cependant, une fois que je l'atteins par les rênes, elle me suivit docilement, comme si elle n'avait jamais eu l'intention de résister. Je conduisis les trois chevaux à la rencontre des charrettes de sel, sous l'une desquelles je remarquai les quatre pattes grises d'un loup. Je m'empressai de regarder ailleurs. Le bac, grande embarcation à fond plat en bois brut, était fixé à un cordage épais tendu entre les rives du fleuve. Des attelages de chevaux assuraient sa translation d'une berge à l'autre, et, à son bord, des hommes le maintenaient dans l'axe à l'aide de longues gaffes. Ils firent d'abord monter les chariots de Dame Brisinga, et ensuite seulement, les passagers et leurs montures. Je fermai la marche, et Manoir se montra rétive, mais elle finit par obéir. Davantage, je pense, pour rester en compagnie des autres chevaux qu'en réponse à mes encouragements et à mes cajoleries. Le bac s'écarta de l'appontement et entama lourdement la traversée de la serre. L'eau clapotait en gargouillant contre le bord du chaland à pleine charge. Il faisait nuit noire quand nous touchâmes la rive nord du fleuve. Nous fûmes les premiers à mettre pied à terre, mais nous attendîmes ensuite le débarquement des chariots. Plutôt que de passer la nuit à l'auberge proche, Sire Doré décréta que nous allions les accompagner jusqu'à la résidence de Dame Brisinga à Myrteville. Les rouliers connaissaient le chemin par cœur. Ils allumèrent des lanternes qu'ils suspendirent aux ridelles et nous pûmes ainsi les suivre sans difficulté. La lune brillait sur nous, toute ronde. Nous chevauchions loin derrière les voitures, mais la poussière qu'elle soulevait restait en suspension et collait à ma peau. Je me sentais beaucoup plus fatigué que je ne l'avais prévu. Ma contracture était plus douloureuse au voisinage de la vieille cicatrice que je devais à une flèche. Une envie pressante me saisit soudain de bavarder tranquillement avec le fou, afin de renouer avec le jeune homme que j'étais jadis. Mais je songeais alors que ni le fou ni Fitz n'étaient présents. Il n'y avait que le seigneur Doré, accompagné de son valet Tom Blaireau. Plus vite je m'en convaincrais, mieux cela vaudrait pour nous. Laurier s'entretenait à mi-voix avec mon maître. Flattée de son attention, elle ne cherchait pas à dissimuler son plaisir. Pour ma part, je ne me sentais nullement exclu, et même j'aurais été mal à l'aise de partager leur conversation. Nous parvînmes enfin à Myrteville. Nous avions franchi plusieurs collines rocailleuses et les bois de chêne des combes qui les séparaient quand, du sommet d'une dernière éminence, nous distinguâmes en contrebas les lumières scintillantes d'une bourgade. Myrteville était bâtie au bord d'un petit affluent de la Serre, l'Andouillé, trop peu important pour permettre la navigation de gros bateaux. La plupart des marchandises à destination de la ville terminaient leur voyage par voie de terre dans des chariots. L'Andouillé fournissait de l'eau pour le bétail et les champs, et du poisson pour les gens qui vivaient sur ses berges. La demeure des Brisinga se dressait sur une hauteur qui dominait le bourg. Dans l'obscurité, il était impossible de juger de sa taille, mais à l'espacement des fenêtres illuminées, elle me parut considérable. Les voitures passèrent une porte percée dans une longue muraille, et nul ne nous interpella quand nous les imitâmes. Quand les conducteurs s'arrêtèrent dans la cour de déchargement, des hommes se portèrent à leur rencontre, des torches à la main. J'éprouvai une impression curieuse, et je finis par comprendre qu'elle était due à l'absence de chiens et d'aboiements. Le seigneur Doré nous conduisit, Laurier et moi, à la porte principale du manoir proprement dit, qui s'ouvrit avant même que nous fussions devant elle et laissa s'échapper une volée de domestiques venus nous accueillir. Nous étions attendus. Un messager nous avait précédés par le bac du matin. Dame Brésinga sortit en personne pour nous souhaiter la bienvenue. Des serviteurs emmenèrent nos chevaux et se chargèrent de nos bagages tandis que je pénétrais, derrière la grand-veneuse de la reine et le seigneur doré, dans l'entrée spacieuse du manoir. L'imposante demeure était bâtie en chêne et en pierre. L'architecture impressionnante, tout en poutres épaisses et en maçonnerie massive, faisait paraître ridiculement petits les gens qui emplissaient la salle. Sire Doré focalisait toutes les attentions, et Dame Brésinga avait passé son bras sous le sien. Petite et potelée, elle lui tenait des propos aimables, les yeux levés vers lui, avec un sourire ravi aux lèvres, qui lui plissait le coin des yeux et découvrait ses dents du haut. Un adolescent efflanqué se tenait à côté d'elle, sans doute Civil Brésinga. Plus grand que Heur, il devait avoir toutefois le même âge, et ses cheveux peignés en arrière laissaient voir deux profondes échancrures de part et d'autre d'une pointe au-dessus du front. Il me lança un regard étrange, puis ses yeux revinrent sur sa mère et Sire Doré. Un curieux petit frémissement de conscience parcourut ma peau. Le vif. Quelqu'un dans les parages appartenait au lignage et le dissimulait avec un art consommé. Je projetai tout bas un avertissement au loup. « Ne te fais pas remarquer. » Il accusa réception du message avec la plus grande discrétion, plus subtil que le parfum des fleurs nocturnes au point du jour, et pourtant, je vis Dame Brésinga tourner légèrement la tête, comme pour capter un bruit lointain. Ce n'était pas suffisant pour acquérir une certitude, mais j'eus le sentiment que nos soupçons, à Imbre et moi, n'étaient pas infondés. La grand-veneuse de la reine avait elle aussi sa cour d'admirateurs en quête de faveur. Son homologue masculin chez les Brésinga se trouvait déjà près d'elle et lui disait que, dès son réveil le lendemain, il se ferait un plaisir de l'emmener dans les collines, sur les meilleurs sites pour le gibier à plumes. Ses aides se tenaient à côté de lui, l'air émoustillé. Plus tard dans la soirée, l'homme accompagnerait Laurier pour dîner avec Dame Brésinga et Sire Doré. Il faisait partie des personnages principaux de la visite, et, une fois leur plan de chasse achevé, ils pourraient partager la table de leur maître. Dans le remue-ménage général, nul ne faisait guère attention à moi. En bon domestique, je restais sans bouger en attendant mes ordres. Une servante s'approcha de moi à pas pressés. « Je vais vous montrer les appartements que nous avons donnés au seigneur Doré, afin que vous puissiez les arranger à son goût. Faut-il lui préparer un bain pour ce soir ?»« Oui, » répondis-je à la jeune femme, en lui emboîtant le pas. « Et une collation aussi. Il lui arrive d'avoir faim tard le soir. » C'était une invention de ma part pour éviter de rester le ventre creux. En tant que domestique, je devais m'assurer du bien-être de mon maître avant de me préoccuper du mien. Malgré l'impromptu de sa visite, Sire Doré s'était vu réserver une superbe chambre dans laquelle ma chaumine aurait tenu sans difficulté. Un lit immense dominait la salle, ventru d'un amoncellement d'édredons et d'épais oreillers. D'énormes bouquets de roses parfumaient l'air, et une véritable forêt de longues chandelles répandait à la fois une douce lumière et la fragrance délicate de la cire d'abeille. De jour, on devait voir par les fenêtres la rivière et la vallée qu'elle suivait, mais il faisait nuit, et les volets étaient clos. J'en ouvris un sous prétexte d'aérer les appartements, puis demandai à la servante de s'occuper du bain pendant que je me chargeais de déballer les vêtements de mon maître. À mon usage, il y avait une petite pièce annexe à celle de Sire Doré. Elle était petite, mais mieux meublée que nombre de chambres de domestiques que j'avais pu voir. Il me fallut plus longtemps que prévu pour ranger les effets du seigneur Doré. J'étais stupéfait de la quantité d'affaires qu'il avait réussi à fourrer dans ses paquetages. J'en tirais non seulement des habits et des bottes, mais des bijoux, des parfums, des écharpes, des peignes et des brosses auxquelles j'assignais des places qui me paraissaient le plus logique possible. Je m'efforçais de me rappeler Charim, le valet de vérité, et, à me trouver dans son rôle, je le vis sous un angle tout à fait nouveau. Le brave homme était toujours présent et toujours en train d'essayer d'améliorer le bien-être et le confort du roi servant. Discret, il n'en restait pas moins à l'entière disposition de son maître. Je tentais d'imaginer ce qu'il aurait fait dans ma position. J'allumai un petit feu dans la cheminée, afin que Sire Doré n'ait pas froid en sortant de son bain. J'ouvris son lit avant d'étendre sa chemise de nuit sur le drap, puis, avec un sourire ironique, je me retirai dans ma chambre en me demandant comment le fou s'y serait pris s'il avait été seul. Je pensais n'avoir pas autant de mal avec le déballage de mes propres affaires, et cette prévision resta exacte jusqu'au moment où je m'attaquai au paquet que m'avait remis le tailleur. Je dénouai la ficelle, et les vêtements compressés reprirent brusquement leur volume normal, comme une fleur qui s'épanouit au soleil. Le fou avait manqué à la promesse de cire dorée de m'habiller modestement. L'ouvrage du tailleur était d'une qualité que je n'avais jamais connue. Je trouvai deux livrées du bleu des domestiques, mieux coupées que celles que je portais, et d'un tissu plus raffiné, deux chemises en toile, d'un blanc immaculé, plus élégantes que celles de la plupart des serviteurs, un pourpoint d'un bleu somptueux, et deux hautes chausses, l'un noir à bandes grises, l'autre vert foncé. Je plaçai le pourpoint sur moi. D'une longueur à laquelle je n'étais pas habitué, les pans ornés d'un foisonnement de broderies jaunes descendaient presque à mes genoux. J'avais aussi des chausses du même jaune. Je secouai la tête, effaré. Une large ceinture en cuir accompagnait le tout, à boucler par-dessus le pourpoint à la poitrine frappée du faisan d'or du seigneur doré. En me voyant dans le miroir, je levai les yeux au ciel. Sans conteste, la fantaisie du fou s'était exprimée dans le choix de mes tenues. Je les rangeai soigneusement. Nul doute qu'il trouverait bientôt un prétexte pour m'obliger à les porter. J'avais à peine fini que j'entendis des pas dans le couloir, puis un coup à la porte. La baignoire de cire dorée arrivait, portée par deux jeunes domestiques, eux-mêmes suivis par trois autres chargés de seaux d'eau chaude et froide. Il me revenait d'effectuer le mélange pour obtenir la température qu'exigeait le seigneur doré. Un cinquième garçon se présenta, un plateau garni d'huile parfumée entre les mains, puis un sixième, avec une pile impressionnante de serviettes, et deux hommes entrèrent ensuite, avec les paravents peints destinés à protéger mon maître des vents coulis pendant ses ablutions. Je ne suis pas toujours très doué pour déceler la position sociale des gens au premier abord, mais malgré ma nature obtuse, je commençais à prendre la mesure du statut du seigneur doré. Des démonstrations d'hospitalité aussi exubérantes sont plutôt réservées à une personne de sang royal qu'à un aristocrate sans terre et d'origine indéterminée. À l'évidence, sa popularité à la cour dépassait de loin mon estimation première, et je me morigénais de ne pas m'en être aperçu plus tôt. Mais soudain, avec une clarté qui ne laissait nulle place au doute, je compris la raison de mon aveuglement. Je savais qui il était. Je connaissais son histoire, ou du moins, j'en connaissais bien plus qu'aucun de ses admirateurs. Je ne voyais pas en lui le rejeton exotique et fabuleusement riche d'une noble et lointaine famille de Jamaïlia, mais le fou en train de pratiquer une de ses plaisanteries compliquées et retorses, et je m'attendais à tout instant à le voir cesser ses jongleries et laisser ses illusions virevoltantes tomber au sol avec fracas. Pourtant, cette fois, il n'y avait aucun masque à enlever. Le seigneur doré était bien réel, tout autant que le fou autrefois. Je restai un moment pétrifié, pris de vertige devant cette révélation. Le seigneur doré était aussi réel que le fou. Par conséquent, le fou avait été aussi réel que le seigneur doré. Alors, qui était cet homme que je connaissais depuis toujours ou presque? L'ombre d'une présence, une odeur plus qu'une pensée m'attira vers la fenêtre. Je portai mon regard, non sur la rivière au loin, mais sur les buissons près de la demeure. L'esprit d'œil de nuit effleura le mien, m'avertissant de tenir la bride à mon vif. Deux yeux profonds se levèrent à la rencontre des miens. « Ça sent le chat !» déclara-t-il délicatement, avant même que j'eusse songé à lui poser la question. « Ça empeste l'urine de chat au coin de l'écurie et derrière, sous les buissons. Il y a des crottes de chat enfouies dans la roseraie. Il y a des chats partout. » « Plus d'un ?» Le marguet de devoir était un cadeau des gens qui habitent ici. Ils les préfèrent peut-être aux chiens, comme animaux de chasse. « C'est certain, leur puanteur est partout et ça me porte sur les nerfs. Je n'ai aucune envie d'en rencontrer un en chair et en os. Tout ce que je sais d'eux, je l'ai appris cet après-midi. » Quand Heur a voulu que je fasse connaissance avec une de ces créatures. J'avais à peine passé le museau par la porte qu'une furie rousse s'est jetée sur moi en crachant, toute griffe dehors. Je n'en sais pas davantage que toi sur ces bêtes. Il n'y en avait pas dans les écuries de Burick. Il avait plus de jugeotes que nous ne le pensions. J'entendis une porte se fermer doucement derrière moi. Je pivotai d'un bloc, mais ce n'était que le seigneur doré qui venait d'entrer. Aristocrate ou bouffon, il restait une des rares personnes au monde capable de me prendre par surprise. Je me rappelais le rôle que je jouais, redressai le dos, puis m'inclinai. « Maître, vos affaires sont rangées. Votre bain vous attend. »
« Parfait, blaireau. Vous avez bien fait d'ouvrir la fenêtre. La soirée est agréablement fraîche. La vue est-elle jolie ?»«
Splendide, monseigneur. On domine toute la vallée. Et la nuit est belle, avec une lune presque pleine à faire hurler tous les loups. »«
Vraiment ?»
Il s'approcha rapidement de la fenêtre et baissa les yeux sur les buissons en contrebas. Œil de nuit lui rendit son regard, et le sourire qui apparut sur le visage du fou n'avait rien d'affecté. Il prit une longue inspiration d'un air satisfait, comme s'il savourait l'air lui-même.
« La nuit est belle, c'est vrai. De nombreuses créatures doivent être en chasse en ce moment. J'espère que nous aurons autant de chance qu'elle pour notre battue. Quel dommage que je sois obligé de la remettre à demain. Ce soir, je suis invité à dîner en compagnie de Dame Brisinga et de son fils civil. J'ai pris congé d'eux le temps de faire un brin de toilette. Vous me servirez au souper, naturellement. »
« Naturellement, maître, » répondis-je avec un sentiment d'accablement. J'avais espéré profiter du repas pour m'éclipser par la fenêtre et faire un tour de reconnaissance avec œil de nuit.
« Je me débrouillerai mieux tout seul, pendant que j'explorerai les environs, faisant autant dans la maison. Plus vite nous en aurons fini avec cette mission, plus vite nous retournerons chez nous. »
« Tu as raison, » dis-je, tout en m'étonnant du petit pincement au cœur que je ressentais à cette idée. N'avais-je donc pas envie de quitter Castelserre pour reprendre le cours de mon ancienne existence? Commençais-je à me plaire dans mon rôle de larbin d'un petit maître cousu d'or? Un sourire sarcastique tirailla le coin de mes lèvres. Je débarrassai Sire Doré de son manteau, puis l'aidai à ôter ses bottes. Comme j'avais souvent vu Charim le faire, mais sans y prêter attention à l'époque, je donnai un coup de brosse aux vêtements, puis le suspendis. Et je passai rapidement un chiffon sur les bottes avant de les ranger. Le seigneur Doré tendit les mains vers moi. Je dénouai les lacets scintillants, aux couleurs vives, des poignets de dentelle de sa chemise et les posai de côté. Il se laissa aller contre le dossier de son fauteuil.
« Je porterai mon pourpoint bleu ce soir, avec la chemise en lin à fines rayures assorties. Un haut de chausse bleu marine, je crois, et les souliers bordés d'une chaînette d'argent. Préparez-moi tout cela, puis remplissez la baignoire, blaireau, et ne soyez pas ladre sur l'huile de rose. Ensuite, disposez les paravents et laissez-moi quelque temps à mes pensées. Ah, j'oubliais, ayez la bonté d'emporter un peu d'eau dans votre chambre et d'en faire usage. Au dîner, je tiens à sentir l'odeur des plats et non votre fumée. Et aussi, mettez votre livret bleu. Ma tenue n'en ressortira que mieux, je pense. Une dernière chose enfin. Passez ceci autour de votre cou. Je vous conseille toutefois de le garder dissimulé, à moins d'en avoir absolument besoin. »
De sa poche, il tira l'amulette de Gina et la déposa au creux de ma main. Il m'avait donné toutes ses instructions d'un ton enjoué, apparemment de bonne humeur. Le seigneur Doré était un homme satisfait de lui-même, et la perspective d'un dîner qui mêlait conversation plaisante et bonne chère l'enchantait. Je suivis ses ordres, sortis ses effets, puis me retirai avec bonheur dans ma chambre en emportant de l'eau pour ma toilette et un peu d'huile parfumée à la pomme. Peu après, j'entendis Sire Doré barboter avec volupté dans son bain, tout en fredonnant un air que je ne connaissais pas. Mes propres ablutions furent moins expansives, mais tout aussi agréables. Je me hâtais néanmoins, car je savais que mes services seraient bientôt requis à nouveau. J'eus du mal à enfiler mon pourpoint, beaucoup plus cintré que les vêtements dont j'avais l'habitude, à tel point que j'eus à peine la place de dissimuler la trousse d'outils que m'avait donnée Humbre, et encore plus le petit poignard que j'avais décidé de porter. Je ne pouvais guère me montrer à un dîner de réception l'épée à la hanche, mais je ne tenais pas non plus à m'y présenter désarmé. La prudence avec laquelle le loup avait employé le vif m'incitait à la méfiance. Je bouclai la ceinture de mon pourpoint, puis nouai mes cheveux en queue de guerrier, en aplatissant quelques mèches rebelles à l'aide d'un peu d'huile à la pomme. Je m'aperçus alors que depuis un moment, je n'entendais plus aucun bruit d'ablution chez le seigneur Doré, et je me rendis précipitamment dans sa chambre. « Maître, avez-vous besoin de mon aide ?»«
Mais non, naturellement !»
Je sentis l'ombre du fou dans la réponse ironique de Sire Doré.
Il sortit de derrière les paravents habillé de pied en cap, occupé à ajuster la dentelle de ses poignets. Amusé de m'avoir pris en défaut, il leva les yeux vers moi, un léger sourire sur les lèvres. Tout à coup, il prit une expression de stupeur et me dévisagea, la bouche entrouverte. Puis son regard s'éclaira et il s'approcha de moi d'un air d'intense plaisir. « C'est parfait, » dit-il dans un souffle. « C'est exactement ce que j'espérais. Ah, Fitz, j'ai toujours rêvé, si un jour l'occasion s'en présentait, de te montrer sous l'aspect qui t'avantage le plus. Et regarde-toi aujourd'hui. » J'ignore ce qui me stupéfia le plus, qu'il se servît de mon nom ou qu'il m'agrippa aux épaules pour me propulser vers l'immense miroir de la salle. Un instant, je n'observais que le reflet de son visage au-dessus de mon épaule, illuminé de satisfaction et de fierté. Puis, je portai les yeux sur un homme que je reconnus à peine. Le fou avait dû laisser au tailleur des instructions extrêmement détaillées. Le pourpoint mettait en valeur mon torse et mes épaules, soulignés au col et au poignet par le blanc de la chemise, et il était bleu de serre, couleur de ma famille. En outre, même si je tenais le rôle d'un domestique, il était d'une coupe nettement militaire. Il élargissait mes épaules et aplatissait mon ventre, et la blancheur de la chemise contrastait avec mon teint, mes yeux et mes cheveux sombres. J'examinais mon visage, abasourdi. Mes cicatrices, autrefois parfaitement visibles, s'étaient estompées en même temps que ma jeunesse. Des rides plissaient mon front, d'autres naissaient au coin de mes yeux, et curieusement, elles atténuaient la dureté de la balafre verticale qui barrait un côté de ma figure. Mon nez cassé ne m'étonna pas, car je l'avais accepté depuis longtemps, tout comme ma mèche blanche que mes cheveux tirés en arrière rendaient plus apparente. L'homme qui me retournait mon regard m'évoqua vérité, mais surtout le portrait du roi servant chevalerie qui décorait encore la grande salle de Castelserre. « Je ressemble à mon père, » dis-je à mi-voix. Cette découverte me plaisait et m'effrayait à la fois. « Uniquement aux yeux de qui cherche cette ressemblance, » répondit le fou. « Seul un observateur assez averti pour négliger tes cicatrices décèlerait en toi le loin-voyant. C'est à toi-même que tu ressembles le plus, mon ami. Mais davantage que d'habitude, voilà tout. Tu as l'aspect du Fitz chevalerie qui a toujours été présent, mais camouflé par les astuces et les subterfuges d'Imbre. Ne t'es-tu jamais étonné autrefois de tes vêtements simples, voire grossiers, qui te donnaient plus l'apparence d'un garçon d'écurie et d'un soldat que du bâtard d'un prince? Maîtresse pressée, la tailleuse, a toujours cru que c'était Subtil qui donnait les instructions pour t'habiller, même quand elle avait l'autorisation de se laisser aller à son goût pour le clinquant et la mode, c'était toujours dans un sens qui attirait l'œil sur ses créations et ses talents de couturière et détournait l'attention de toi. Mais tel que tu es aujourd'hui, Fitz, c'est ainsi que je t'ai toujours imaginé et que tu ne t'es jamais vu. Je me retournai vers le miroir. Je ne pense pas mentir en disant que je n'ai jamais été vaniteux, et il me fallut un moment pour reconnaître que, si j'avais vieilli, il s'agissait d'un processus de maturation plus que de dégénérescence. « Je ne suis pas si mal que ça, » dis-je malgré moi. Le sourire du fou s'élargit. « Ah, mon ami, j'ai traversé des contrées où les femmes se seraient entrepoignardées pour toi. » Il leva une main élégante pour se frotter le menton d'un air pensif. « Et je me demande à présent si ma lubie ne s'est pas trop bien réalisée. Tu ne passeras pas inaperçu ainsi vêtu. Mais c'est peut-être aussi bien. Compte un peu fleurette aux filles de cuisine, et qui sait ce que tu pourras apprendre d'elles. » Son ton moqueur me fit lever les yeux au ciel, puis je croisai son regard dans le miroir. « Les salles du manoir où nous sommes n'ont jamais reçu plus beaux visiteurs que nous deux. » déclara-t-il d'un ton catégorique. Il me serra l'épaule, puis il se redressa et redevint tout à coup le seigneur doré. « N'importe, blaireau, nous sommes attendus. » Je m'empressai d'obéir. Après ces quelques instants en compagnie du fou, je me sentais mieux disposé à supporter la mascarade qui nous était imposée, et je commençais même à me prendre au jeu. Si le prince de Voir se trouvait bien à Myrteville, comme je le soupçonnais,
nous mettrions la main sur lui avant la fin de la nuit. » Sire Doré franchit la porte et je le suivis de pas en retrait sur sa gauche.